Débat Africa Radio, BBC Afrique, présenté par Liliane Niacha et Francis Laloupo. Le débat.
Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver à nouveau et c'est évidemment avec une grande joie que je vous salue Francis Laloupo. Vous nous avez manqué la semaine dernière, bon retour.
Une joie partagée Liliane, c'est un plaisir de vous retrouver également. Et bonjour aux auditrices et aux auditeurs, merci de leur fidélité. Alors, principal sujet cette semaine Liliane, le Togo.
Oui, la nouvelle loi électorale adoptée cette semaine à l'Assemblée nationale et qui permet notamment aux Togolais de la diaspora de voter, est-elle enfin la bonne pilule ? Ou tout au moins l'un des remèdes pouvant contribuer à apaiser le climat politique? Le texte n'a pas recueilli l'unanimité des votes de tous les députés présents, mais elle est passée et s'appliquera à la prochaine présidentielle. La présidentielle de 2020 sera-t-elle fondamentalement différente des précédentes grâce à cette nouvelle loi? Analyse dans cette émission.
Autre sujet, un deuil national de 3 jours a débuté vendredi dernier au Burkina Faso. Burkina Faso en mémoire de 38 personnes tuées mercredi dernier dans une attaque terroriste, Liliane.
Et pour que cela n'arrive plus jamais, le président Kabore a annoncé le recrutement de jeunes volontaires pour la défense et la patrie. Il s'agira, dit-il, des fils et filles de la nation, sans considération de région, d'ethnie, d'opinion politique et de confession religieuse. Changement de stratégie donc, est-ce la réponse qu'il fallait face à la multiplication d'actes de cette nature? Et peut-elle être plus efficace contre le terrorisme au Burkina Faso? Nous tenterons d'y répondre au cours de ce débat.
Et enfin Liliane, actualité béninoise avec cette semaine, une révision constitutionnelle.
D'ailleurs validée mercredi Francis par la Cour constitutionnelle, la loi de révision de la Constitution a été promulguée le jour suivant par le président Patrice Talon. Elle a été adoptée il y a une semaine par la controversée Assemblée nationale. La Constitution révisée, même si elle comporte d'importantes modifications, ne règle pas pour autant tout. Des zones d'ombre demeurent. Elle sera néanmoins appliquée maintenant que la Cour constitutionnelle et le président Talon ont donné leur feu vert. Alors l'opposition qui continue de dénoncer une posture du pouvoir a-t-elle encore les moyens de se faire entendre? Débat à suivre. À vous Francis pour le plateau.
Oui, il y a notre grand témoin invité cette semaine depuis Lomé au téléphone, David Ekwe-Dossé, acteur de la société civile togolaise, premier porte-parole du Front citoyen Togo Debout. David Ekwe-Dossé, bonjour.
Bonjour Monsieur Le Pompo.
Merci d'être
avec nous. Bonjour à tous les auditeurs et toutes les auditrices.
Et notre confrère qui nous rejoindra au cours de l'émission au téléphone depuis Ouagadougou, Cyriac Paré, président de l'association des éditeurs de presse en ligne. Petite fiche de présentation de notre grand témoin invité, David Ekwe-Dossé, titulaire d'un doctorat d'État en médecine, puis d'un DES de chirurgie générale de l'Université de Lomé. Vous êtes depuis 2005 professeur titulaire de chirurgie générale à la Faculté des sciences de la santé de l'Université de Lomé et maître de conférence, agrégé en chirurgie générale, lauréat au concours d'agrégation du CAMES de Brazzaville. Vous avez présidé de 2005 à 2012 le syndicat national des praticiens hospitaliers, chef du service chirurgie du centre hospitalier universitaire Sylvanus Olympio de Lomé depuis 2014. Vous êtes depuis 3 ans le coordonnateur national des universités sociales du Togo, l'UST, et vous êtes un acteur de la société civile togolaise. Vous êtes depuis 2017 le premier porte-parole du Front citoyen Togo Debout, le FCTD. David Ekwe-Dossé, vous serez notre grand témoin dans cette édition du débat BBC Afrique, Africa Radio. Voilà pour le sommaire, Liliane.
Et le premier sujet, c'est évidemment le Togo. Vous l'avez annoncé en début d'émission, Francis, où les députés de l'UFC, de Gilles-Christ Olympio et ceux de UNIR, partis au pouvoir, ont voté en faveur de la nouvelle loi électorale à l'Assemblée nationale cette semaine. Mais l'opposition du centre s'est abstenue. La grande nouveauté, c'est que la nouvelle loi donne le droit aux Togolais vivant hors de leur pays de voter d'abord pour la présidentielle de 2020, c'est donc l'année prochaine, et plus tard pour les législatives. Première question, Monsieur Dossé, pour pouvoir voter, les Togolais de la diaspora doivent s'inscrire munis de leur passeport, de la carte consulaire datant d'au moins 6 mois. Certains qualifient ce point d'encadrement suspect, mal intentionné, d'autres parlent de conditions non justifiées. Pour autant, est-ce que cela enlève toute pertinence à cette nouvelle loi?
Alors, il faut savoir que la question du vote de la diaspora est apparu suite à l'éclatement de la nouvelle crise en 2017. Cela a fait partie des exigences des milliers de manifestants qui disaient que la diaspora togolaise intervenant dans la vie économique du Togo, il était aussi important qu'elle puisse intervenir dans la vie politique. À partir de là, effectivement, cette question est revenue dans plusieurs débats et dernièrement, cela a été pris en compte par le Parlement, par l'Assemblée nationale. Mais, comme vous l'avez dit, il y a cette disposition qui précise qu'il faut disposer d'une carte consulaire valable 6 mois avant l'élection, alors que le texte qui précise cela, lui, est pris, apparaît 3 mois avant l'élection. Ce qui signifie que les Togolais de la diaspora qui, l'ayant appris, ayant eu l'information, se décident à aller faire leur carte consulaire, auront une carte consulaire valable seulement au mieux 3 mois avant l'élection et ne pourront donc pas voter.
Donc la loi élimine en quelque sorte les opportunistes qui viendraient se faire enregistrer juste parce qu'il y a une opportunité de vote.
Oui, il faut savoir que beaucoup de Togolais qui vivent à l'étranger ne disposent pas de carte consulaire. Moi-même qui vous parle, lorsque j'étais en dehors du Togo pendant des années pour mes études, je n'ai jamais disposé de carte consulaire. Ça n'a jamais été un élément, un outil nécessaire à ces différentes activités à l'étranger. Et donc, je suis convaincu que, en tout cas, ceux qui sont vraiment de la diaspora et qui pensent à l'avenir du pays n'ont jamais pensé à se faire établir une carte consulaire. Maintenant, le pouvoir mis certainement dans sa stratégie avait prévu cette disposition à l'avance, a peut-être fait établir une carte consulaire à certains Togolais de la diaspora à dessein. Et là maintenant, à 3 mois de l'élection, on fait sortir un texte avec ce que je vais appeler une rétroactivité qui dit qu'il faut avoir une carte consulaire valable non pas 3 mois ou 2 mois avant l'élection, puisque c'est maintenant que les gens ont cette information. On vous demande de disposer d'une carte consulaire valable de 6 mois avant l'élection. Donc je suis convaincu que beaucoup de mes compatriotes qui sont à l'étranger ne pourront pas participer. En tout cas, ceux qui sont vraiment de la diaspora et qui ont des choses à dire sur l'avenir et sur la vie politique du Togo. Donc c'est une condition qui, à mon avis, va certainement empêcher beaucoup de gens d'aller voter et de dire vraiment ce qu'ils pensent de ce pays.
David Ekwendose, votre pays, le Togo, a connu depuis 3 décennies une succession de contentieux électoraux. En quoi cette loi pourrait rendre un processus électoral plus vertueux?
Vous savez, si on prend les dernières élections qui ont été faites au Togo, je parle des élections locales qui ont eu lieu le 30 juin 2019, je parle également des élections législatives qui ont eu lieu en décembre 2018. Justement, c'était encore la preuve que le régime actuel a toujours du mal à organiser des élections qui soient intègres. Toujours parlant des élections, des processus électoraux au Togo, il y a une étude qui a été faite récemment justement par les universités sociales du Togo. Cette étude a été publié récemment, donc je crois que ça fait une dizaine de jours, et cette étude démontre toutes les irrégularités du système et qui permettent du système électoral et qui permettent justement la survenue de fraude électorale. Et donc parler d'élections vertueuses au Togo, je crois qu'on en est très 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 loin. Si nous restons dans les conditions actuelles, avec le code électoral actuel, avec le processus tel qu'il a démarré, il y a très très peu de chances qu'on puisse avoir une élection qui soit vraiment vertueuse. Et donc ce n'est pas cette nouvelle loi permettant justement à une partie des Togolais de la diaspora de participer à l'élection présidentielle qui va y changer grand-chose. Donc il y a de fortes chances, malheureusement, qu'on soit encore dans le système de fraude et dans les nombreuses irrégularités.
Alors tout cela intervient quand même après cette crise qui a été déclenchée en août 2017. À quoi reste-t-il finalement au Togo cette crise, ce mouvement, puisque le régime en place a entièrement conservé ses positions face à une opposition qui, elle-même, est retournée au fond sur son territoire traditionnel?
Je vais paraphraser le ministre ghanéen qui nous a dit une fois, vous savez, aujourd'hui, le monde entier sait ce que vous voulez. Vous avez fait des manifestations que les gens ont vues à travers le monde et le monde entier sait que le peuple togolais demande le changement. C'est vrai que nous ne sommes pas encore arrivés à parachever la lutte. c'est vrai que le régime actuel a encore manifestement tous ses pouvoirs en main, toutes les prérogatives qui lui permettent de rester, d'user du pouvoir. Mais je reste convaincu que à partir du moment où nous sommes convaincus de la nécessité d'arriver au changement démocratique au Togo, c'est un processus qui est en cours et qui finira certainement par aboutir à quelque chose qui va permettre l'épanouissement du peuple togolais.
Monsieur Dossé, à la question de Francis de savoir en quoi est-ce que cette nouvelle loi peut réduire les contentieux électoraux concernant les prochaines élections, vous avez semblé dire que, en fait, il n'y a rien. Et que la question de la transparence, en fait, vous l'avez dit en substance, que la question de la transparence reste entière. Est-ce que vous comprenez l'enthousiasme donc du ministre de l'administration territoriale qui a estimé que cette réforme et que cette loi électorale répond aux recommandations de la CEDEAO dans le cadre justement de la résolution des contentieux électoraux? Il a même ajouté que tout est prêt pour la poursuite du processus électoral. En d'autres termes, la question de la réforme est réglée, a été réglée par ce nouveau code.
Oui, alors comme je vous l'avais dit, madame, je crois qu'il est difficile d'espérer, dans les conditions actuelles, la tenue d'une élection qui soit intègre au Togo. Je parle de l'élection présidentielle qui est prévue pour l'année prochaine. Et quand vous parlez d'enthousiasme du ministre de l'administration territoriale, il fait partie du système et il mettra tout en œuvre justement pour que le système de fraude puisse se pérenniser et surtout pour que le régime actuel puisse rester et donc fermer le débat sur la question de l'alternance démocratique au Togo. Et la loi, telle qu'elle a été votée, avec des conditions totalement uniques, cette loi ne favorise nullement le jeu démocratique. Il y a des Togolais de la diaspora qui sont proches du régime, qui auront certainement une carte consulaire datant de 6 mois, et de très nombreux Togolais de la diaspora qui sont manifestement des Togolais qui ont dû fuir le pays, qui sont des exilés politiques, qui sont aussi des exilés économiques, qui veulent que les choses changent au Togo pour pouvoir revenir au Togo, qui ne disposeront pas d'une carte consulaire valable 6 mois avant l'élection et qui ne pourront donc certainement pas apporter leur voix au débat. Voilà donc la situation et je comprends tout à fait l'enthousiasme de M. Bopézi, ministre de l'administration territoriale.
Alors le ministre, justement, Gilbert Bawara, qui a déclaré récemment, vous parlez de son enthousiasme, moi je parlais d'une belle décontraction, il a déclaré qu'à la prochaine élection présidentielle, qu'on n'imagine pas une élection présidentielle sans Foya Singbe, parce que selon lui, une élection présidentielle sans Foya Singbe, c'est comme faire jouer le FC Barcelone sans Lionel Messi, fin de citation. Vous voyez qu'il est bien décontracté. Alors, ma question est celle-ci, David Kouem Dossé. Alors, compte tenu de l'histoire politique du Togo, qui peut croire aujourd'hui, qui peut croire un seul instant que le candidat Foya Singbe pourrait se faire battre dans les urnes à l'issue d'une présidentielle organisée par son régime?
Il est certain que si nous allons à des élections dans les mêmes conditions que celles que nous avons toujours connues, il n'y a aucune chance.
Mais qu'est-ce qui peut changer entre maintenant et 2020?
Justement, il y a le peuple. Il y a le peuple qui s'est levé en 2017. Personne ne s'y attendait. Il y a le peuple qui a manifesté. Et il est donc possible qu'il y ait, dans les 3 mois, une situation.
Le peuple a manifesté en demandant très clairement que M. Foya Singbe ne se présente pas pour ce qui pourrait être un 4e mandat. Et on voit bien, évidemment, qu'il va le faire. Donc, en quoi est-ce que on pourrait imaginer que le peuple va remporter de nouvelles étapes d'ici 2020?
Il y a eu des manifestations qui avaient vraiment amené le régime à reculer. Et je rappelle que c'est ce régime qui avait demandé le soutien de la CEDEAO, justement.
Il a reculé, mais il est toujours en place.
La situation progressivement a changé. Nous disons avec un fort soutien, malheureusement, des chefs d'État de la CEDEAO, qui n'ont pas véritablement joué le jeu démocratique. Mais aujourd'hui, nous en sommes conscients. Et il n'est pas exclu que dans les prochaines semaines...
Vous ne pouvez pas accuser la CEDEAO, David Kouem Dossé, puisque vous venez de dire vous-même que le régime recule. On voit bien que le régime recule sur place.
Il recule et il revient, tout à fait. Il revient beaucoup plus fort peut-être, ou en tout cas beaucoup plus uni et beaucoup plus décidé à conserver le pouvoir.
Et peut-être peut-être aussi grâce ou à cause de l'opposition qui en face ne constitue pas véritablement ne constitue plus véritablement un contre-pouvoir.
Oui. Je m'associe à cette question.
Je pense qu'il n'y a pas que l'opposition togolaise. Je pense qu'il faut être sincère et honnête et dire aussi que la société civile a eu des défaillances. Mais en dépit de tout cela, moi je reviens quand même sur le rôle que la CEDEAO a joué. Et je rappelle que déjà en 2005, lorsque nous étions en crise au Togo, la CEDEAO est venue et comme solution, nous avons imposé une élection présidentielle en 2005. Et en dépit de ce que le ministre de l'Intérieur avait dit à l'époque, demandant de surseoir à cette élection parce qu'il y a des choses qui se préparaient, on a obligé le peuple togolais à aller à l'élection.
Mais vous ne pouvez pas demander à la CEDEAO de faire la révolution à la place des Togolais, monsieur Dossé.
Oui, attendez. Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Donc, on a vu ce qui s'est passé en 2005. Nous revenons en 2017 dans une situation quasi similaire. Le peuple togolais sort pour demander des réformes, des questions précises, et sans aucune imagination, de nouveau, la CEDEAO arrive avec une feuille de route qui est constamment violée, et à la fin, la CEDEAO dit, bah, écoutez, allez à l'élection législative. Je pense que dans ces conditions, il est vraiment difficile d'accéder à cette exigence de la CEDEAO qui demande encore au peuple togolais comme seule solution, comme seule alternative à une crise, d'aller voter.
Merci. Excusez-moi, monsieur Dossé, on va revenir à vous. On va donner la parole à notre confrère, Ladi Bamba, qui est à Ouagadougou. Bonjour, Ladi.
Bonjour.
Votre commentaire
Ladi Bamba, précise, Liliane, qui est journaliste au bimensuel d'investigation Courrier Confidentiel de Ouagadougou.
Exactement. Alors, Ladi, quel est votre commentaire sur ce qui apparaît, si on écoute notre invité, comme un piège qui a été offert par les autorités aux électeurs togolais de la diaspora?
En écoutant ce commentaire sur le Togo, ça me fait penser à ce qui se passe chez nous ici au Burkina, parce qu'on vit une situation pratiquement similaire, à la seule différence que je comprends qu'au Togo, il est question de 4 autorités consulaires pour les Togolais de la diaspora, comme en tout cas élément au document de votation.
4 consulaires, précisons, qui datent de moins de 6 mois.
Voilà. J'imagine, je ne sais pas si là-bas, il y a 4 consulaires biométriques, mais en tout cas, chez nous, au Burkina, on a la chance d'avoir les 4 consulaires biométriques, surtout pour les Burkinabés de Côte d'Ivoire qui sont là. Le plus gros bataillon, en tout cas, du Burkina Faso de l'extérieur, en Côte d'Ivoire, vous imaginez. On a eu la chance d'avoir des 4 consulaires biométriques là-bas, mais chez nous, on refuse que ces 4 consulaires biométriques soient des éléments, ou en tout cas des documents de votation pour ces électeurs-là qui sont à l'extérieur. On exige qu'ils puissent faire le déplacement forcément au Burkina, pour faire des 4 d'identité nationale ou des passeports pour pouvoir les utiliser comme éléments de votation. Si vous imaginez que pour quelqu'un qui vit à l'extérieur, qui a souvent même du mal à avoir le nécessaire pour appuyer sa petite politique qui doit venir au Burkina pour faire ces documents-là pour pouvoir prétendre à l'élection, vous imaginez beaucoup ne pas venir. Donc, ça fait beaucoup plus. En réalité, quand j'écoute de tout, c'est dire que les dirigeants, ils effectivement avec ces électeurs-là, les électeurs qui ne veulent pas voir comme des électeurs, parce que leur vote n'est pas plus acquis. Donc, ils sur la pression, ils acceptent qu'ils soient électeurs, ça nous permet
des barrières, c'est-à-dire vous pensez que c'est une... Tout cela participe à une stratégie du pouvoir d'entraver le vote de la diaspora, qui ne leur serait pas favorable, d'après vous.
Exactement. Nous avons déploré ça chez nous au Burkina aussi à un moment donné, parce que sous la pression, on donne d'une main quelque chose qu'on reprend immédiatement de l'autre main. Vous voyez un peu? Donc en réalité, ce vote-là, c'est vraiment... on accepte un alibi. Mais en réalité, on ne dit pas que les Burkinabés ou les Togolais, en tout cas les ressortissants qui sont à l'extérieur, participent réellement au vote. On met toujours des barrières, des freins pour les empêcher de voter. Mais après, on leur dit que oui, dans les sièges, dans le code électoral, on leur a autorisé de voter. Mais tout le monde sait qu'on ne veut pas leur permettre de voter comme tout le monde.
Voilà
la réalité. C'est vraiment triste pour nos démocraties en Afrique.
D'accord. Monsieur Dossé. Oui, une brève réaction à ce que vient de dire notre confrère. Il l'a dit en 30 secondes et on passe à la pause.
Oui, je crois qu'il résume tout à fait la situation. C'est une stratégie qu'utilise le pouvoir togolais, comme le pouvoir burkinabé l'avait fait en son temps. Je crois que c'est une stratégie qu'utilise le pouvoir togolais tout simplement pour empêcher beaucoup de Togolais de la diaspora de participer au vote. Et ceux qui disposeront certainement d'une carte consulaire datant de moins 6 mois sont déjà des personnes connues par le pouvoir, choisies par le pouvoir. Et
mais est-ce que c'est aussi une bonne chose de rester citoyen dans un pays étranger sans être connu des autorités de son pays, des autorités consulaires du pays d'accueil?
Oui, je pense que dit comme ça, ça paraît évident, mais quand vous êtes d'un pays où vous avez eu tellement de difficultés, vous avez subi tellement de misère, quand vous avez cette possibilité de sortir, je vous assure que parfois vous avez envie de couper les ponts, non pas avec vos amis, vos parents, mais avec le régime qui est au pouvoir. Et c'est ce qui se passe avec les Togolais. Et je le rappelle, personnellement, j'ai vécu à l'étranger, je n'ai jamais demandé à avoir une carte consulaire, bien qu'ayant une carte nationale d'identité togolaise, bien qu'ayant un passeport togolais. Donc c'est une situation réelle. Dû tout simplement à ce ressenti des Togolais vis-à-vis de ce régime qui est là au pouvoir depuis plus de 50 ans.
Merci.
Le débat BBC Afrique, Africa Radio.
Avec notre grand témoin invité depuis Lomé au téléphone, David Kouedossé, acteur de la société civile togolaise, premier porte-parole du Front citoyen Togo Debout, le FCTD, notre confrère invité depuis Ouagadougou au téléphone, Ladji Bamba, journaliste bimensuel d'investigation, courrier confidentiel. On continue sur ce sujet, le Togo, l'actualité togolaise. David Kouedossé, face à la presse, c'était le 3 octobre dernier, la coalition de l'opposition dénommée C14 a exprimé ses réserves sur la transparence et la crédibilité de l'élection présidentielle de 2020. Même son de cloche, hein, l'ANC, tête de file de l'opposition, dont le candidat déclaré, Jean-Pierre Fabre, émet déjà lui aussi des doutes sur la transparence de ce scrutin. Mais évidemment, tout ça n'est pas nouveau. La question qu'on a envie de vous poser dans ce contexte précis du Togo, David Kouedossé, voilà, les Togolais ont manifesté pendant plusieurs mois, et depuis des années d'ailleurs, pour demander de changer de dirigeant. Est-ce qu'il n'est pas temps aussi de changer d'opposition, de changer d'opposant?
Alors, changer peut-être de dirigeant, oui, mais pour ce qui concerne l'opposition, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il faudrait changer l'opposition.
Vous savez, si on se penche sur la pertinence des stratégies de l'opposition, oui. On peut se poser la question sur la pertinence des stratégies successives.
Et si on demande l'alternance du côté du pouvoir, est-ce qu'il n'est pas normal qu'au sein de l'opposition aussi, certains chefs de file qui sont en place depuis 15-20 ans, candidat malheureux, est-ce que ce n'est pas aussi normal qu'il cède la main, qu'il passe la main?
Cette question peut-être se poser, mais je ne pense pas que cette question constitue à la solution à la crise togolaise. La crise togolaise, on sait à quoi elle est due. Nous avons un régime qui est fortement soutenu par une armée qui n'est pas républicaine. Un régime qui est toléré par la communauté internationale, pour quelles raisons, je ne sais pas. Et face à ce régime, vous avez effectivement des hommes politiques, mais vous avez également une société civile et des citoyens qui se sont levés et qui se sont clairement exprimés. Et je pense que si on avait voulu aider le peuple togolais à passer justement cette alternance à travers une voie pacifique et démocratique, cela aurait été déjà fait. Alors, poser le problème en termes de changement des responsables politiques de l'opposition, personnellement, je pense que c'est...
Excusez-moi, monsieur Dossé, peut-être
la question politique en général.
La question de France est aussi due au fait que, bon, on a le sentiment qu'il y a comme un essoufflement de la part de ces leaders, ou même peut-être un manque d'innovation dans la stratégie même de l'opposition. Vous êtes d'accord avec nous qu'il y a eu une tentative avec la C14 qui a échoué, qui a éclaté, oui, et qui aujourd'hui a la tête ailleurs qu'à l'alternance?
Il est clair qu'il y a une situation difficile due au fait que la C14 a implosé. Cela appelle certainement de nouvelles stratégies, peut-être une autre coalition, mais surtout, à mon avis, sur une plus grande implication de la société civile qui doit mieux se imposer sa marque, porter ses exigences, porter haut la voix du peuple togolais et permettre peut-être une nouvelle phase de la lutte qui oblige les acteurs, aussi bien de l'opposition que du pouvoir, à revoir en fait, à revoir un peu tout ce qui se passe au Togo et faire en sorte que les choses puissent évoluer dans le sens du peuple, des intérêts du peuple togolais.
Est-ce que vous voulez dire que l'alternative viendrait davantage aujourd'hui de la société civile plutôt que de l'opposition traditionnelle, c'est ce que vous dites?
Je suis convaincu que la société civile doit jouer un rôle beaucoup plus important dans la lutte au Togo pour permettre l'avènement du changement démocratique que nous voulons tous. Je ne pense pas que l'opposition...
Mais excusez-moi, cette société civile a toujours, sauf erreur de ma part, travaillé aux côtés de l'opposition qui se fait aujourd'hui discrète et qui, disons, rase presque les murs.
Je dirais plutôt que la société civile travaille aux côtés du peuple togolais. Il arrive effectivement que les intérêts du peuple soient repris aussi bien par la société civile que par l'opposition démocratique. Mais dire que la société civile travaille aux côtés de l'opposition, je pense que c'est un abus de langage. Maintenant, comme vous l'avez dit, et je le crois aussi, il est important que la société civile puisse jouer un rôle beaucoup plus important pour permettre véritablement l'aboutissement de la lutte et l'avènement de la démocratie.
De quelle lutte parle aujourd'hui l'opposition et la société civile? Qu'est-ce qui constitue aujourd'hui, selon vous, l'engagement prioritaire qui doit préoccuper les deux forces, c'est-à-dire l'opposition et la société civile?
Quelles sont les revendications?
Voilà, maintenant qu'il y a une nouvelle loi qui a été votée.
Très bien. Voilà, alors, effectivement, tout le monde demande au peuple togolais de faire le choix de l'alternance démocratique et pacifique qui passe par la voie des urnes. Et notre stratégie consiste à démontrer encore une fois le système de fraude qui existe, c'est ce qui a été fait il y a environ 10 jours, à travers une étude donc publiée par le Front citoyen Togo debout, par les universités sociales du Togo. Et à partir de cette étude, nous allons poser la question sur la table en disant: nous avons accepté le principe d'aller à l'élection présidentielle, mais si c'est dans les mêmes conditions de fraude, nous savons déjà qui sera le vainqueur proclamé. Je donne des exemples. Nous avons dit par exemple que le bulletin de vote, il n'est pas authentifié et ça favorise le bourrage d'urne, alors qu'il est facile, par une simple signature des membres présents dans le bureau de vote le jour du scrutin, de mettre fin définitivement à la question du bourrage d'urne. L'autre élément qui a également été relevé justement par la mission d'expertise électorale de l'Union européenne en 2015 et en 2013, c'était d'exiger que la CENI, donc la commission électorale indépendante, proclame les résultats bureau de vote par bureau de vote. Ça permet une plus grande transparence et surtout une véritable traçabilité des résultats des procès-verbaux. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Nous insistons pour que les Togolais aillent voter. Parfois, ils y vont. Nous insistons pour qu'ils assistent au dépouillement. Ils décident de rester parce qu'ils sont déterminés, ils veulent le changement, ils restent, ils assistent au dépouillement, ils connaissent les résultats de leur bureau de vote. Mais lorsque, en aval, la CENI donne les résultats, ils sont incapables de dire...
C'est-à-dire qu'ils ne se contentent pas de voter, mais de surveiller le vote et de rester jusqu'à la fin du dépouillement. Mais une fois qu'ils ont vécu cela, après, il y a eu des résultats qui sont transmis, des procès-verbaux qui sont transmis à la commission électorale, qui, en définitive, proclament les résultats, qui sont presque toujours validés.
Voilà, le problème, c'est que la CENI, lorsqu'elle proclame les résultats, et je précise que ce que je suis en train de dire a été constaté par la mission d'expertise électorale de l'Union européenne, qui a mis le doigt dessus et qui a insisté pour que cette CENI proclame les résultats, non pas de façon globale, mais bureau de vote par bureau de vote, avant de donner les résultats globaux. Cela permettrait justement à ces nombreux citoyens qui sont restés, qui ont assisté au dépouillement, de pouvoir dire « cette CENI a tenu compte des vrais résultats de mon bureau de vote » ou alors « les résultats de mon bureau de vote qui ont été transmis à la CENI ont été totalement changés oui. ». Et aujourd'hui, le pouvoir sait très bien que s'il accède à au moins ces deux demandes, l'authentification du bulletin de vote et la proclamation des résultats bureau de vote par bureau de vote, il se tire une balle dans le pied et les élections ne permettront certainement plus de proclamer la victoire du président.
On entend bien tout cela. David, on entend tout cela, évidemment, sur le plan théorique, on comprend très bien évidemment votre démarche, mais est-ce que vous prenez en compte la grande lassitude des Togolais qui assistent au même scénario qui se répète à chaque élection depuis des années?
Il est clair que c'est une donne importante, parce qu'aujourd'hui, si nous devons aller à l'élection présidentielle de 2020 sans aucune modification du code, sans aucun accord politique, sans aucune discussion qui permette d'obtenir vraiment un changement substantiel dans le processus électoral, je m'attends à ce que beaucoup de Togolais n'aillent pas voter.
Parce
que
d'accord, merci.
Ils sont effectivement fatigués, ils en ont marre de toujours participer à des élections présidentielles, législatives et maintenant locales. C'était en juin. Et à chaque fois, c'est le même scénario.
Merci beaucoup.
Vous y allez.
Ils n'iront peut-être pas voter, mais il y a déjà des candidats déclarés, comme Gilles Christ Olympio de l'UFC, ou encore Jean-Pierre Fabre, qui a été investi le mois dernier. Francis, avec votre permission, on passe au prochain sujet.
Le débat BBC Afrique, Africa Radio.
Avec mon grand témoin invité, David Kouedossé, acteur de la société civile togolaise, premier porte-parole du Front Citoyen Togo Debout, le FCTD, et notre confrère invité, Ladji Bamba, journaliste au bimensuel d'investigation, courrier confidentiel édité à Ouagadougou, au Burkina Faso. Le Burkina Faso, justement, face aux défis sécuritaires, c'est notre deuxième sujet. Près de 700 morts et quelques 500 000 personnes déplacées depuis le début de la crise en 2015, la crise sécuritaire. Comment expliquer l'intensification des attaques de groupes armés avec une aggravation continue du bilan humain au Burkina Faso? Mercredi dernier, l'attaque d'un convoi de civils, des travailleurs de la mine de Sémafo. Cette attaque a fait au moins 38 morts et plusieurs blessés dans l'est de Burkina. Une soixantaine de travailleurs sont toujours portés disparus d'ailleurs. Face à cette situation, les autorités en appellent à la solidarité et à l'union. Et le chef de l'État annonce le recrutement de volontaires pour combattre ce péril inédit. Alors que fin octobre dernier, on a célébré au Burkina Faso le 5e anniversaire de l'insurrection qui a mis fin au régime de Blaise Compaoré. Le Burkina Faso est confronté à une équation à plusieurs inconnues, une crise sécuritaire alimentée par les tensions politiques et communautaires sur fond d'incertitudes sociales. On va peut-être écouter un élément sonore avec vous, je crois, Liane.
Oui, tout à fait, justement après cette attaque, le président a donc fait ses annonces dont vous avez parlé tout à l'heure, notamment le recrutement de jeunes volontaires. C'est un changement de cap. Précision à Ouagadougou du correspondant de BBC Afrique.
C'est un président au regard grave et au temps ferme qui est apparu à la télévision pour annoncer ses mesures de reprise en main de la situation. Il demande aux forces de défense et de sécurité de recruter des volontaires pour les combattre dans les zones menacées, sans préciser le nombre ni leur qualification.
Dans ce sens, j'ai ordonné le recrutement de volontaires pour la défense de la patrie dans les zones sous menace. Seule une mobilisation générale des fils et des filles de la nation, sans considération de région, d'ethnie, d'opinion politique et de confession religieuse est à même de vaincre ces meurtriers sans foi ni loi qui rêvent de soumettre notre patrie et notre peuple courageux à leur dictat machiavélique.
Mais dans une déclaration publiée un peu plus tôt, son parti avait demandé au gouvernement d'impliquer les groupes d'autodéfense dans cette lutte. Les citoyens restent partagés sur la mesure.
Nous, on veut que l'affaire là s'arrête. S'il fait ça, si lui-même il voit que c'est bien, haya, on en a marre.
Parce qu'il ne faut pas que la lutte contre le terrorisme devienne aussi la source d'autres problèmes que le Burkina a rencontré, notamment que des groupes de milices se forment et que ça devienne une guérilla urbaine et rurale après.
Simon Gongo, BBC Afrique, Ouagadougou.
Merci beaucoup. Question pour vous, Ladji Bamba, vous êtes à Ouagadougou justement, donc on en appelle désormais au recrutement de volontaires pour combattre les groupes terroristes. Est-ce à dire que l'armée nationale n'est plus en capacité de faire face à la situation?
Merci. Je pense que c'est la question qu'on peut tout de suite se poser. Appeler au recrutement de volontaires, ça veut dire quoi? On ne nous dit pas ce qu'il y a. Personne ne peut en tout cas leur faire répondre à cette question. Mais si on peut s'agarder à répondre, c'est tout aussi de dire que certainement que l'armée est certainement débordée. Elle ne peut plus faire face à la situation. C'est certainement la raison pour laquelle on en arrive là. Mais déjà, dès l'annonce de cette mesure-là, comme on a pu bien souligner dans le reportage, l'opinion est déjà divisée sur cette mesure-là parce que ça suscite beaucoup d'appréhension. On se demande bien comment est-ce que dans cette atmosphère-là, on peut bien recruter des jeunes volontaires, comment est-ce qu'ils pourront s'en sortir, si les professionnels même de la chose, les militaires n'en sortent pas, comment des jeunes volontaires vont s'en sortir? C'est la grande question. Et du coup, beaucoup restent en tout cas très très pessimistes quant à la pertinence de cette proposition du chef de l'État. Pour ne pas dire que beaucoup trouvent que la même arranger rapidement parce qu'elle ne peut pas nous faire avancer, c'est tellement manifeste. Et beaucoup proposent plutôt que, comme cela a été revendiqué depuis longtemps, plutôt que de faire recours à cette mesure absolument absurde, on puisse en tout cas doter les militaires, les professionnels de la chose pour qu'ils puissent bien faire leur travail sur le terrain. C'est ça la revendication depuis longtemps.
Vous voulez parler de renforcement, des équipements?
Oui, parce que c'est ça le gros problème. Depuis le début de cette affaire, le gros problème de nos militaires, ils le disent eux-mêmes, ils sont très sous-équipés, tout équipés.
Ladji, à vous entendre, on peut avoir l'impression que le discours du... Vous avez été déçu par le président le discours du président. Et il ne répond peut-être pas à vos aspirations personnelles. Qu'est-ce que vous auriez voulu entendre au lendemain d'un tel carnage? Francis parlait de 38 morts, il rappelait les chiffres de cette attaque.
Je ne parlais pas de ce que moi je voulais entendre, je parlais de ce que l'opinion en général, pour être à l'écoute depuis un moment, ce que les gens disent à Ouagadougou et partout dans le pays, ce que et même ce que les militaires même veulent, c'est qu'on puisse mieux organiser notre armée, lui donner ce qu'il faut comme moyen pour faire face à la situation. C'est la revendication la plus en vue depuis un moment. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Les militaires, ils nous disent tout le temps, pour que vous ayez des troupes au sein de ces gens-là, ils vous disent tout le temps qu'ils sont sous-équipés. Ils n'ont pas les moyens nécessaires pour faire face à la menace qui est devant eux. Et face à ça, on ne peut que demander à ce qu'on puisse mieux les équiper, mieux les organiser, et surtout que leur hiérarchie sorte du confort loin de Ouagadougou pour aller sur le terrain. Voilà une autre revendication qui n'est pas assez pertinente.
Oui.
On a l'impression que depuis que cette affaire est là, Les grands gradés de l'armée sont à Ouagadougou dans les gros véhicules.
On va écouter notre invité. Merci.
Ils envoient les pauvres soldats sur le terrain, ils n'ont pas de militaires pour faire face à la menace.
D'accord. L'armée nationale qui déclarait récemment, d'ailleurs, en fait, certains officiers qui disaient récemment que ce n'était plus une guerre, mais une boucherie au Burkina Faso. David Kouyé-Dossé, qu'est-ce que vous pensez de ce recours à des volontaires, des recrues volontaires, voire à des groupes d'autodéfense dans une situation sécuritaire comme celle que connaît le Burkina Faso?
Oui, ce qui se passe au Burkina est vraiment triste. Et nous, en tant que citoyens de l'Afrique, nous sommes vraiment attristés de tout cœur avec nos frères du Burkina. Il est clair que l'enjeu sécuritaire est devenu un enjeu primordial dans tout ce qui se passe dans la sous-région. Le Burkina paraît être le pays le plus exposé, mais je ne suis pas convaincu que la solution... je n'ai pas tous les éléments en main, mais je me permets de dire quand même que je ne suis pas convaincu que la solution telle que prônée par le président avec le recrutement de volontaires soit la solution qui permette de mettre fin définitivement à ce problème sécuritaire. Comme le confrère l'a dit, M. Bamba, je crois qu'il est important que les gens qui ont été formés, je veux parler des militaires, bénéficient peut-être d'un meilleur équipement. Je ne sais pas s'ils ont, par exemple, des moyens aéroportés. Et je crois qu'aujourd'hui, il est très important, lorsqu'on se bat au sol, d'avoir la possibilité de bénéficier de troupes qui sont dans les hélicoptères ou dans les avions pour apporter un soutien important. Je ne sais pas si ces moyens sont mis à la disposition des militaires burkinabés. Aujourd'hui, on dit qu'on va recruter des volontaires qui sont peut-être suffisamment déterminés et engagés, mais est-ce qu'ils ont la formation requise? On va les armer. Est-ce qu'ils auront des armes suffisamment lourde et importante pour faire face à la machine des terroristes? Si c'est le cas, il ne faudrait pas qu'on se trompe de cible un jour, parce que si on donne des armes à des civils, à des miliciens, qu'est-ce que ces miliciens deviendront demain? Qu'est-ce qu'ils feront de ces armes? On ne le sait pas.
Une fois peut-être la bataille terminée, la question de réintégration. Mais je voudrais peut-être, je ne voudrais pas déplaire à notre confrère Ladji, mais il y a certains monsieur Dossé qui estiment que quand l'armée avance des problèmes d'équipement adaptés pour lutter contre les terroristes, c'est une excuse, en fait, face à la réalité à laquelle on a assisté ces derniers temps, c'est que les forces de défense décampent, détalent des régions dès qu'il y a des attaques.
Mais justement, pourquoi ils étalent ? Faut se poser cette question. Si vous êtes tout le temps là, vous faites face à des gens qui sont suréquipés, face à des armes.
Non, je disais, certains affirment qu'ils parlent de ce matériel en fait pour justifier et que c'est une excuse en fait à leur attitude qui n'est pas que certains estiment n'est pas très nationaliste et républicaine.
Non, moi je ne vois pas ça tout cet angle-là. Parce que plusieurs fois nous avons vu, ça c'est pas la première attaque, souvenez-vous, il y a eu plusieurs attaques au Burkina et après chaque attaque, on se rend compte après en cas que il se trouve que souvent certaines positions militaires qui ont été attaquées où il y a eu des carnages, des témoins disent que quand ils ont vu qu'ils ont fait face aux attaques là, ils avaient des armes qui ne déclenchaient pas. On a vu ces témoins de façon récurrente dans les attaques au Burkina.
D'accord.
Vous voyez des militaires, vous voyez des ennemis qui viennent vous contre vous avec des armes lourdes, et vous, vos carnages que vous avez ne peuvent pas déclencher. Vous faites quoi? C'est une réalité. Et ça arrive chaque fois.
Merci. Francis?
Oui, alors... Je voulais évoquer avec vous, Ladji Yebamba, la visite qu'a effectuée récemment au Burkina Faso la ministre française de la Défense, Madame Florence Parly, qui à cette occasion d'ailleurs a évoqué évidemment les missions du G5 Sahel, mais aussi une nouvelle opération militaire dénommée Borgou 4, qui va donc associer à la fois l'opération française Barkhane et des troupes et des contingents burkinabés. Et on parle également de l'envoi prochain de forces spéciales européennes pour compléter des dispositifs existants. Qu'est-ce que les Burkinabés attendent de soutien militaire étranger aujourd'hui, notamment de la France ?
Ben, moi, je pense pas grand-chose. Hein. En tout cas, ce que nous avons entendu juste après cette annonce-là, il y a quand même un peu de la réunion, si vous verrez la réaction des Burkinabés. Mmh. Les gens n'ont plus confiance à la France dans cette lutte-là. Mmh. Ça fait donc pas que la France est au Mali, ça n'avance pas, bien au contraire, on recule. Et en plus, là où c'est récurrent, comment vous pouvez comprendre que la ministre vient de faire sa déclaration de façon publique comme ça, par voie de presse, on vient attaquer des gens, et déjà on annonce les hommes que non, on ne peut pas nous permettre de nous attaquer. Vous pensez que ces djihadistes vont rester là pour qu'on vienne les attaquer? On ne peut pas annoncer ça sur les opérations militaires, je ne suis pas militaire, mais c'est la moindre des choses, c'est de déclarer cette opération de façon vraiment discrète, et qui sont l'ennemi, qui sont préparés par des stratégies à
marcher. Pas surprise.
On vient à Ouaga, on se met à Ouaga, on fait des déclarations en l'air sur les zones, comment on lance nos opérations à l'heure pour aller déloger ces djihadistes-là. Et vous pensez que vous n'avez pas vous attendre?
Merci. On va peut-être conclure avec vous, M. Dossé. Et suite à ce que vient de dire notre confrère Ladji, est-ce que vous pensez que c'est par conséquent l'occasion peut-être de faire intervenir d'autres acteurs dans la lutte contre le terrorisme dans le Sahel? Cette semaine, on a annoncé la montée en puissance prochaine du G5 Sahel avec l'appui de la Russie et notamment de la Chine. Vous y croyez, vous?
Je crois en tout cas qu'il est quand même important d'essayer autre chose, parce qu'à l'évidence, la stratégie jusqu'ici n'a pas payé. Et donc, s'il y a d'autres acteurs qui peuvent apporter un soutien, je pense quand même qu'il est important que ce soit d'abord les Burkinabés, les Africains, qui précisent véritablement l'étendue de leurs besoins. Si c'est des besoins en termes d'équipement, si c'est des besoins en termes de formation, qu'ils le disent et qu'il y a des gens qui peuvent apporter ce genre de soutien, oui, mais en dehors de ça, que ce ne soit pas des forces qui viennent avec leurs exigences, leur façon de faire.
Mais au regard de la situation actuelle qui se dégrade, est-ce qu'il n'est pas, vous privilégiez les forces burkinabées qui semblent dépasser avec l'annonce du recrutement prochain des volontaires. C'est le Nigérian Maman Sambo Sidiku, secrétaire permanent du G5 Sahel, qui disait qu'il y aurait une montée en puissance du G5 Sahel. Ma question était davantage de savoir, avec les difficultés financières aujourd'hui du G5 Sahel, est-ce que vous pensez que la venue de ces acteurs-là peut être bénéfique et aider peut-être à rendre opérationnelle enfin cette force?
Oui, c'est ce que je disais. Donc, si les difficultés sont essentiellement des difficultés financières faisant qu'on n'arrive pas à déployer justement cette force et que ce soutien financier peut venir d'autres pays, d'autres horizons, il revient au Burkinabé de décider si ce soutien financier peut leur permettre enfin de déployer leur stratégie et de faire face à la menace terroriste. Je pense qu'en toute souveraineté, le peuple burkinabé a la possibilité de faire appel à d'autres puissances.
Merci.
Mais je le précise encore, il ne s'agit pas de subir la volonté de ceux qui viendront apporter un appui.
Mais le Burkina doit être acteur, et voilà, acteur en, dans cette opération.
Absolument.
Francis, on va...
C'est lui qui fait ce qu'il lui faut, c'est lui qui décide.
Vous allez passer au troisième sujet sans transition, Liliane, je le sens.
Oui, c'est le Bénin. Il ne s'agit ni d'une nouvelle république, ni d'une nouvelle constitution, selon les autorités béninoises qui ont initié la révision de la constitution, mais celle-ci a été validée par la Cour constitutionnelle, puis promulguée cette semaine par le président Patrice Talon, et elle instaure des changements majeurs qui vont désormais régir la vie politique. On ne va pas revenir sur l'ensemble de ces changements, mais on va rappeler rapidement qu'elle a maintenu, cette révision maintient la durée et le nombre de mandats présidentiels, 2, et il ajoute d'ailleurs qu'aucun président de la République ne peut faire plus de 2 mandats dans sa vie. On instaure aussi un poste de vice-président, mais avec vous, M. Dossé, pour on vient de parler des grandes lignes de cette réforme validée et promulguée, est-ce que les jeux ne sont pas désormais faits pour l'opposition qui a longtemps combattu cette initiative des autorités?
Je crois qu'il sera effectivement difficile pour l'opposition d'avoir les arguments qui permettent de revenir sur cette disposition nouvelle qui, en fait, de mon point de vue, ne fait que renforcer le fait que chaque président qui arrive au pouvoir pourra faire un premier mandat, éventuellement un second et pas plus. Et quelle que soit la dextérité du président, en aucun cas, dans toute sa vie, il ne pourra effectuer plus de 2 mandats au Bénin. Ce qui est donc valable au Bénin, que nous avons souhaité de tout faire au Togo et que nous n'avons jamais eu. Personnellement, je pense que c'est peut-être une bonne chose. Peut-être que dans la manière, effectivement, le président Talon aurait dû jouer autrement, faire en sorte qu'il y ait un peu plus de consensus, justement, des différents acteurs politiques pour permettre l'adhésion à une telle disposition.
Mais maintenant que cela a été voté par une assemblée monocolore, dans les conditions qu'on connaît, un dialogue auquel l'opposition traditionnelle n'a pas participé, aujourd'hui, que reste-t-il de l'opposition comme moyen pour pouvoir remettre en cause ou bien obtenir un retrait de ces réformes, qu'elles soient bonnes ou pas?
C'est ce que je disais, justement, si ces réformes sont bonnes, il sera difficile pour l'opposition actuelle de revenir sur ces réformes, parce que ces réformes, si elles tendent à renforcer la démocratie, en tout cas, par exemple, par rapport à ce que vous avez évoqué tantôt, le nombre de mandats effectués par chaque président, il sera difficile pour l'opposition.
Oui, mais il y a un paradoxe, David, vous le savez bien, parce que vous êtes voisin du Bénin, vous savez que ce pays est en crise depuis avril dernier. La question qu'on peut se poser, c'est de savoir en quoi cette révision consolide-t-elle la démocratie, alors même que l'opposition est toujours exclue de l'action politique. Puisque pour l'opposition, il n'y a pas eu de révision de la Constitution. Elle ne reconnaît pas l'actuelle Assemblée nationale, qu'elle juge illégitime. Une Assemblée, comme vous le savez, sans aucune formation de l'opposition. Comment peut-on faire accepter une nouvelle Constitution, enfin une Constitution révisée en tout cas, comment peut-on admettre la validité d'une Constitution qui n'a pas été soumise à un consensus national?
Et je suis totalement d'accord avec vous pour dire que dans la manière, dans la façon de faire, effectivement, je pense que le président Talon a péché. Il aurait fallu qu'il y ait beaucoup plus de consensus dans la manière de faire. Il aurait fallu que l'opposition traditionnelle puisse participer à l'élection législative, qu'elle soit représentée au Parlement, qu'elle participe justement aux discussions. Et cela aurait permis une plus grande adhésion à ces mesures qui, de mon point de vue, quand même, sont des mesures assez démocratiques. Mais on sait ce qui s'est passé au Bénin. L'opposition traditionnelle a été empêchée de participer à l'élection législative. Il y a eu des difficultés post-électorales avec du sang versé, des choses qui nous ont beaucoup touchés, parce que, comme vous l'avez dit, nous sommes voisins du Bénin. Et nous nous avons toujours applaudi lorsque nous avons vu les avancées démocratiques au Bénin. Nous avons eu l'élection de 2013 où les 2 finalistes ont effectué un débat magnifique et à la fin les Béninois ont choisi M. Talon. Nous avons applaudi les 2 mains. Nous avions espéré que ce genre de choses puisse également se produire au Togo. Et malheureusement, je répète encore, il n'y a pas suffisamment eu de prise en compte des forces de l'opposition. Il n'y a pas eu suffisamment de consensus dans la manière de construire le débat et c'est le reproche que nous ne pouvons faire au régime béninois.
Merci. Un commentaire de Ladji Bamba sur cette séquence de la vie politique béninoise.
Excusez-moi, hein, il y a un point important de la situation au Burkina que j'aurais voulu aborder, mais que je n'ai pas eu le temps.
Vous revenez au Burkina Faso.
Vous me permettez de dire deux mots par rapport au Burkina, avant de répondre à la question.
Juste deux mots, rapidement.
Parce qu'il me semble qu'il y a un aspect important du problème au Burkina que les gens n'ont jamais pris en compte, ou du moins les gens ont pu l'exprimer. Il me semble qu'on va écouter un témoignage sur l'attaque, la dernière attaque, mercredi, à l'est du Burkina. J'ai eu la chance d'avoir des témoins qui ont vécu cette attaque-là, des rescapés de cette attaque, mais qui m'ont fait un témoignage qui donne froid dans le dos. Figurez-vous que depuis les attaques au Burkina, on a pu soupçonner l'ex-RSC, l'ex-base territoriale de Brest-Comporé, qui a été dissous, et on a parlé du coup d'État de 17 septembre 2015. Cette date territoriale qui a été dissoute a été soupçonnée d'être derrière ces attaques au Burkina. Mais ce matin, les témoignages que j'ai reçus confirment très bien cette thèse. Et je me sens qu'il faut bien prendre cette thèse au sérieux dès maintenant.
Eh bien, c'est une information importante.
Mais nous n'avons pas le temps de la développer. On n'a pas vérifié non plus.
Je suis peut-être vous interrompre parce que le moment est vraiment venu d'écouter les messages de nos auditeurs, messages postés sur Internet, sur notre page Facebook, recueillis et livrés à présent par Didier Ladislas Landau.
Réagissez et laissez-nous vos commentaires via notre compte Twitter, @débat BBC Africa, et sur notre page Facebook, facebook.com/débat BBC Africa.
Bonjour Liliane, bonjour Francis, bonjour à tous. Voici quelques réactions d'internautes recueillies sur la page Facebook de l'émission. Togo, archiduc Théodore de N'Djamena, affirme que le droit de vote accordé à la diaspora togolaise est une bonne chose. Il estime cependant qu'il faudra un mécanisme de vérification pour la transparence du vote afin d'éviter les polémiques liées à la fraude. Charles Bazema, lui, constate l'échec de la société civile et de l'opposition dans la lutte contre le régime de Faure et demandera à notre invité si le pouvoir n'a pas divisé les manifestants pour mieux rayer. Burkina Faso, Tidiane Botegueba estime que la solution à la crise sécuritaire ne viendra pas des forces internationales, mais plutôt d'une amélioration de la stratégie et des équipements de l'armée nationale. De son côté, Jimran Tchandjung Ozana estime que les autorités doivent changer de stratégie dans la lutte contre le terrorisme, sinon ces derniers risquent de continuer à faire des victimes. Bénin Didos Didier Afodo s'interroge sur la sérénité avec laquelle la révision de la constitution de 1990 a été menée. Merci à Nza Obiang Moana Pagou qui nous a rejoint cette semaine. Merci de continuer à nous suivre sur les réseaux sociaux à l'adresse facebook.com/le débat BBC Africa-Africa Radio et sur Twitter à @débat BBC Africa. Et d'ici là, bon week-end à tous.
Merci Didier Ladislas Landau. Une conclusion générale, s'il vous plaît, David Ekwe-Dossé, c'est la tradition dans cette émission, peut-être sur l'actualité togolaise. L'auditeur qui demandait si le pouvoir n'est pas parvenu finalement à diviser les manifestants et opposants pour mieux régner.
Une chose est certaine, c'est qu'aujourd'hui, les forces démocratiques sont dans une situation difficile, il faut le reconnaître. Mais même si nous sommes seulement à 3 mois de l'élection présidentielle, je pense personnellement qu'en 3 mois, beaucoup de choses peuvent se passer. Nous pouvons voir l'exemple de ce qui s'est passé en Algérie. C'est à quelques jours ou semaines de l'élection qu'il y a eu des mouvements très importants qui ont amené à la chute de M. Bouteflika. Et donc, en 3 mois, beaucoup de choses peuvent se passer et nous essayons, en tant que force démocratique, de travailler toujours pour qu'il y ait une nouvelle stratégie qui puisse émerger et démontrer que le peuple togolais qui s'est levé en 2017 pour le changement veut toujours ce changement et fera tout pour parachever la lutte.
Merci beaucoup, merci d'avoir été avec nous dans cette édition du débat BBC Afrique, Afrique Radio. David Ekwe-Dossé, acteur de la société civile togolaise, premier porte-parole du Front citoyen Togo Debout FCTD, en sigle. Notre confrère qui est avec nous au téléphone depuis Ouagadougou, merci à lui, Ladji Bamba, journaliste au bimensuel d'investigation, courrier confidentiel. L'émission a été réalisée à Dakar par Oumar Diallo, régie technique assurée à Paris par Hugo Vallière, chargé de production Didier Ladislas Landau. Vous pouvez bien sûr écouter cette émission en podcast sur nos sites respectifs, africaradio.com et bbcafrique.com. Liliane, on va se souhaiter un bon week-end et souhaiter un bon week-end aux auditrices et aux auditeurs.
Bien évidemment, Francis, bon week-end à tous. Oui. Et on aura le plaisir mutuel de nous retrouver la semaine prochaine avec évidemment tous nos auditeurs et toute l'équipe du débat BBC Afrique, Africa Radio. Au revoir.
Au revoir.
Monsieur Dossé l'a dit.
Monsieur Dossé, merci beaucoup.
Oui. Merci à vous beaucoup. Monsieur merci, Lagi, messieurs.
Merci. Oumar Diallo, merci.
Merci.
Merci,
hein. très
bon week-end.
Merci beaucoup.
Oumar, Francis, bon dit, tu l'entends?
Merci, Francis. Merci beaucoup.
Oumar, tu as oublié le bed à la fin. Hein.
J'ai mis.
Ah bon?
Le préfet.
Tu as mis le bed à la fin?
Quand j'ai dit... Le préfet, j'ai mis.
Ah d'accord, bon. D'accord. Bon,
d'accord, on verra. OK. Merci à vous. Ladi. Oui, je vais t'appeler après hein, pour avoir un peu plus de détails dans ce que tu as affirmé.
Oui, mais comme... c'est une bombe que tu as envoyée.
Voilà, c'est une bombe. Mais nous, comme on n'a pas confirmé, on ne veut pas donner de l'ampleur à une telle information parce qu'on ne sait jamais.
Bisous Liliane, bonjour, ciao.
Bisous Francis, merci Ladi, à bientôt. Monsieur Ladi.
S'il vous plaît, cette oui? émission sera diffusée sur Didier.
Didier va t'envoyer un mail avec tous les détails, d'accord. Ou bien WhatsApp, avec tous les détails de l'heure.
Okay.
Tous les détails, merci.
Ok, merci.
Okay. Monsieur Dossé, au revoir.
Bonne suite à vous.